C'est notre coach en sexologie. Elle est intervenante dans le même domaine. Et là, avec le décès du prince Philippe, je me dis, hein, la reine va devoir se pencher peut-être sur la masturbation. C'est notre sujet du jour. Allons rejoindre au lit avec Anne-Marie. Anne-Marie Ménard, bon matin, Anne-Marie.
Bon matin.
Comment tu vas?
Ça va super bien, vous autres.
Ça va bien, ça va bien. Tu sais qu'Anne-Marie, j'ai pris la décision plus tôt ce matin de peut-être essayer de m'inscrire à l'université. J'aimerais ça faire mon cours en sexologie.
Wow, wow! Qui contrôle ça?
C'est
Kiwi! Oui.
Anne-Marie, ça a-tu de l'allure, mon idée?
Ben écoute, pourquoi pas? Toujours le temps de s'éduquer, toujours le temps de s'informer. Puis il y a comme une diversité, hein, qui y a comme une espèce de mouvement vers l'avant. Dans le domaine de la sexualité, pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'amène vers ça?
Ben parce que j'aime ça en parler, mais connaître ça. Comme mettons, toi, dans ton cas, c'est uniquement à l'université qu'on commence à étudier pour devenir sexologue ou en sexologie.
Oui, exact. C'est à l'Université du Québec à Montréal. C'est la seule université en Amérique du Nord qui offre un baccalauréat en sexologie. Mais je sais qu'il y a un certificat en santé sexuelle à l'Université Laval et je crois que l'Université de Montréal a également sorti un certificat là, entourant le sujet, mais vraiment un bac, si tu veux le faire, c'est à l'UQAM et après que toi, ça prend des maudites bonnes notes rentrées là.
OK, ça, je suis capable d'en trafiquer, ça se vend sur Internet, mais, hey, t'as dit en Amérique du Nord, c'est le seul endroit, les sexologues américains, mettons, sont formés où? Ou sont formés dans un programme différent?
Sont formés dans des programmes différents. C'est pas sexologie le nom de leur programme. Parce que ici, tu sais, pour être sexologue, ça prend deux choses. Hein. Ça prend un bac en sexologie et ça prend une adhésion à l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Mais ailleurs, on n'a pas besoin de ça. Donc, il y a des gens qui vont se nommer sexologue sans avoir fait un bac en sexologie. Ils vont avoir fait des études sur la sexualité humaine, mais c'est des études qui sont autres que la sexologie en tant que telle.
Et puis, ce serait peut-être bon de marier avec ça la psychologie parce que, tu sais, tu le dis dans à peu près tous les sujets qu'on a abordés ensemble à date, Anne-Marie, ça part toujours de la tête. Fait que peut-être que la psychologie serait une des choses facilement liées à la sexologie.
Oui, puis en fait, tu sais, dans le bac, c'est très multidisciplinaire. Tu sais, on voit plein de choses. J'ai eu des cours de psychologie, des cours de biologie, des cours de relations d'aide. Donc, on apprend à intervenir auprès des gens dans ce domaine-là. Donc, on voit vraiment plein de choses. C'est sûr que c'est un bac. Il y en a qui vont à la maîtrise, qui est en ligne vers de la psychothérapie. Donc, les personnes qui ont fait la maîtrise vont être sexologues psychothérapeutes. Donc, vraiment, là, elles vont pouvoir aller travailler un petit peu plus là, dans la programmation des êtres humains là, dès le jeune âge. Mais oui, énormément de psychologie là, dans la sexologie. Là, je pense que ça part de la tête.
Est-ce que, mettons que tu rencontres un gars là, pour les premières fois, puis là, tu lui dis, ouais, j'ai étudié en sexologie ou je suis sexologue. Est-ce qu'il y en a qui ont peur? T'en as-tu vu partir à la course puis dire, oh non, là, je veux pas être évalué là-dessus? Là?
Il y en a beaucoup qui m'écrivent. Moi, ça fait pas longtemps que je suis célibataire en passant. Ça fait juste un an, puis on est en pandémie depuis. Hein, fait que c'est un petit peu dur de dater en pandémie. Fait que ça m'est pas arrivé encore de dire à quelqu'un que j'étais sexologue dans une date puis que j'ai eu une grosse réaction, mais il y a des gars qui vont m'écrire par exemple sur Instagram puis me dire ah ça doit être intimidant, mais tu sais, il y a le côté théorique puis il y a le côté pratique, puis je te dirais que je pense pas à la théorie quand je suis dans le côté pratique.
C'est bon. Hey, ben, restons dans le sujet. Donc ça fait un an que tu es célibataire, puis là on va parler des bienfaits de la masturbation parce qu'avec la pandémie, j'imagine qu'il y a beaucoup. Écoute, la masturbation, est-ce que tu mets ça au premier rang des sujets tabous?
Mais hein. C'est un de mes sujets préférés. Puis en regardant les sujets de chronique que j'avais fait jusqu'à maintenant, je me suis rendu compte qu'on n'en avait pas parlé. Et pourtant, c'est un de mes sujets préférés. J'encourage la masturbation parce que pour moi, c'est une reprise de pouvoir sexuel. La masturbation, c'est ton autonomie, c'est ton point de départ, c'est le point de découverte. Il y a tellement de belles choses qui peuvent ressortir de la masturbation. Donc, énormément de bienfaits. Donc, si on commence avec des bienfaits physiologiques, la masturbation, d'abord, aide à diminuer le stress, puisque, bon, le cerveau va sécréter des endorphines qui vont réduire le stress. Surtout si on réussit ensuite à atteindre l'orgasme, on va également, la plupart du temps, pouvoir profiter d'une grande sensation de relâchement, des tensions du corps qui vont contribuer à une sensation de détente. Et c'est pour ça qu'il y a des gens.
Oui. C'est-tu la même chose homme-femme dans tous ces points-là que tu vas nous amener? Est-ce que chez les hommes et chez les femmes, c'est la même chose?
c'est la même chose pour tout le monde, oui, effectivement. Puis, ben, c'est pour ça qu'il y en a, tu sais, il y en a une gang qui vont faire ça avant de se coucher le soir, hein. Homme ou femme, là, ça une sensation de plénitude suite à une séance de masturbation avec orgasme. Okay. Donc, effectivement, favorise le sommeil. Bon, c'est sûr que du côté des hommes, la masturbation va aider à prévenir le cancer de la prostate. J'en avais parlé un peu la semaine passée. Pour les personnes là, qui éjaculent environ 3 fois à semaine, il va y avoir une diminution du risque de cancer de la prostate. Puis chez les femmes, ben évidemment le fameux mal de tête, les crampes menstruelles, l'orgasme va sécréter des endorphines qui vont être antidouleurs. Donc ben on peut se masturber pendant les menstruations, puis ça peut aider à diminuer les crampes.
C'est ça, ça peut pas. Puis ça, ta dernière chronique, ben c'est la semaine passée, puis ça a amené un sujet de discussion chez nous là, j'en ai parlé avec ma blonde. Puis c'est vrai, tu sais, des fois, mettons que t'es pas au sommet de ta forme, puis t'as un petit peu mal à la tête ou quelque chose, sérieusement, l'excitation et l'orgasme sexuel peut vraiment libérer le petit nœud là, si je peux appeler ça comme ça, qui te crée cette douleur là. Mais je pense qu'il y a une très, très grande majorité des femmes qui croient pas ça, puis qui disent « Ah oui, ça, c'est une belle invention des gars, là, juste pour nous pogner. »
Ben, en fait, dans ce temps-là, ce que tu fais, c'est que tu lui dis « Je m'occupe de toi ce soir. » Okay. Pour lui montrer que c'est elle qui est importante. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Parce qu'on n'a pas le goût. Tu sais, quand t'as mal à la tête, t'as mal au ventre, ouais. C'est pas la première chose à laquelle tu penses, te masturber, tu sais, ou avoir des rapports sexuels. Mais une fois qu'on l'a fait, on est comme contente parce qu'effectivement, tu sais, il y a vraiment comme une sécrétion d'endorphine, une sécrétion d'oxytocine qui se promène à travers le corps. Donc, une super de belle sensation de plénitude, antidouleur. J'en avais même parlé la semaine passée pendant l'accouchement. Il y en a qui vont avoir un orgasme lors de l'accouchement, mais il y en a qui vont aussi pratiquer la masturbation lors de l'accouchement. Puis là, je sais que ça vous avait fait bien réagir la semaine passée. Oui. Fait que, mais vraiment beaucoup de bienfaits. Ça, c'est tout au niveau physiologique, mais au niveau psychologique.
Ouais, mais hey, je veux revenir sur quelques propos que tu as dit. Parce que la réalité fait que là, tu as dit qu'un homme qui éjaculait 3 fois par semaine allait augmenter son pourcentage de chances d'éviter un cancer de la prostate parce qu'il y a un cycle de répétition qui se fait. C'est bien exact?
Oui, exactement.
En réalité, quand tu regardes quelqu'un en couple, puis si on fait un sondage sérieux, les rapports sexuels vont être d'une fois par semaine. Fait que c'est obligatoirement, c'est de dire aux hommes, ben là, vous avez 2 shots à régler ça vous autres-mêmes, là.
Ouais, ben tu sais, ça c'est un autre sujet. La masturbation en couple, c'est quelque chose qui représente un défi pour certaines personnes parce qu'il y en a qui vont le prendre comme ils vont se sentir en compétition avec la masturbation. Puis j'en reçois beaucoup des messages de jeunes femmes, de jeunes hommes qui vont me dire, ben je suis pas à l'aise avec le fait que mon conjoint, ma conjointe se masturbe. Ça me fait sentir mal. J'ai l'impression quasiment que c'est de l'infidélité. Mais il faut vraiment comprendre que la masturbation, c'est pas parce que t'es en couple que ça va arrêter. Puis il y a aucune raison que ça arrête parce que t'es en couple. Pour moi, comme j'ai mentionné plus tôt, la masturbation, c'est vraiment une reprise de ton pouvoir sexuel. On peut pas constamment être sur la même longueur d'onde avec notre partenaire quand il en vient à notre désir sexuel.
Puis on n'a pas la même libido non plus. On n'a pas la libido timée en même temps tout le temps.
Ben exactement, tu sais, je veux dire, il y a un écart là dans la libido, puis on peut pas compter là-dessus pour se satisfaire là à temps plein. Là. Votre partenaire n'est pas responsable de votre désir sexuel ou de votre plaisir sexuel. On est tous et toutes responsables de notre propre désir et plaisir. Puis même quand t'en as beaucoup, mais quand t'en as pas beaucoup aussi, t'es responsable de ton désir. Fait que ça va dans les deux sens. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très une grande autonomie dans être capable de se satisfaire soi-même. C'est gratifiant de pouvoir le faire sans compter sur personne d'autre.
Mais tantôt t'as dit que tu reçois quand même des messages, puis je l'ai déjà entendu là. Tu sais, des gars qui se font pogner à se masturber un soir quand sa blonde est couchée puis elle pense qu'il écoute le hockey. Et là, elle voit ça comme de la tromperie ou de l'infidélité. Là, il y a plusieurs grades. Ils faisaient tout ça devant rien ou devant de la porno ou devant quelque chose de weird, peu importe là. Mais au départ, c'est pas de la masturbation en couple qui les dérange. C'est vraiment de savoir que l'autre passe à l'acte sans sa présence à elle.
Exact. C'est face à l'acte dans son jardin secret.
Ouais.
C'est comme si elle se sentait menacée. Puis là, je dis elle parce que c'est souvent des femmes là qui vont avoir une petite problématique avec ça. Là, je généralise évidemment, mais oui, effectivement, tu sais, elles vont sentir là qu'elles sont en compétition. Mais tu sais, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent l'appétit vient en mangeant. Et que si une personne, puis ça a été prouvé là, des gens qui ont beaucoup de satisfaction dans leur rapport sexuel vont souvent avoir tendance à vouloir répéter l'expérience, et quand la partenaire n'est pas disponible, ben il reste la masturbation. Puis je pense que c'est correct de dire à son partenaire ou à sa partenaire, ben tu peux te masturber. Tu sais, je veux dire, tu n'es pas un objet sexuel pour ta partenaire. Puis c'est sain de se masturber. La personne ne compte pas sur toi nécessairement pour relâcher ses tensions, ses pulsions sexuelles. Mais je pense que là où ça dérange, c'est quand il y a de la pornographie qui est impliquée. À ce moment-là, souvent, il va y avoir encore plus une grande menace chez les personnes là, qui vivent avec des gens qui vont se masturber avec la pornographie. Mais je pense que il faut vraiment prendre conscience que la porno, ça peut contribuer à nourrir notre imaginaire érotique et qu'on peut se servir de ces fantasmes-là, de ces pulsions-là dans nos rapports sexuels. Ensuite, c'est sûr que là, il faut vraiment le mentionner, la pornographie, elle nous enseigne pas juste des choses qui sont bonnes. Beaucoup de mythes partent de la pornographie. Je le dis souvent dans mes chroniques, ouais. C'est juste l'éjaculation féminine, par exemple. On va voir des choses spectaculaires dans la pornographie. Puis là, on veut s'arranger pour que ça nous arrive.
C'est comme un film de James Bond, la pornographie. Tu sais? Non, mais c'est
oui,
vrai. Tu sais, dans James Bond, il meurt jamais, là, puis il évite les balles. Tu sais, on comprend qu'il y a une exagération. Que la base, elle peut être un peu vraie, mais il arrive à un terme où il y a une exagération.
My name is Bond.
Ah, définitivement, là. Puis tu sais, que ce soit les hommes, les femmes, tu sais, la semaine passée, tu me demandais même comment qu'on fait pour éjaculer beaucoup, tu sais. Mm-hmm. On voit des affaires dans la pornographie, puis sans s'en rendre compte, on intériorise ces messages-là. Puis ben, si on n'a pas eu d'éducation sexuelle, ben on pourrait les croire, ces scénarios-là. Là. Donc, faut juste faire attention à ça. Mais tu sais, il existe d'autres choses. Hein. Il y a des podcasts qui existent sur le sujet. Il y a des applications comme Dipsy, D-I-P-S-E-A, qui va vraiment... c'est comme des podcasts érotiques, des masturbations guidées. On peut se diriger vers la pornographie féministe, des lectures érotiques. Donc, vraiment, plusieurs choix s'offrent à nous. Puis, encore une fois, tu sais, quand vous vous sentez menacé par le fait que votre conjoint, conjointe se masturbe ou regarde la pornographie, parlez-lui. Hein? Demandez-lui pourquoi la personne fait ça. Puis, qu'est-ce que ça lui apporte? Puis, à ce moment-là, la personne va pouvoir vous rassurer sur ses pratiques puis vous dire que ça n'a rien à voir avec vous, la plupart du temps.
Je pense que... hey, c'est drôle, j'entends ton chien. Je l'avais vu en photo sur Instagram, mais là, je l'entends pour la première fois.
Ça va être petit,
cool.
Ça va être petit.
Ah, ouais, je sais, ça va un peu qu'il jappe pendant une chronique.
Hey, c'est même
un
pas...
peu fâché.
C'est ici, c'est là, non. Hey, dans Dupont, le matin, il n'y a jamais rien de grave. Là. C'est jamais... on est très cool. Tu sais que je trouve que chez la femme, puis peut-être pour les gens de mon âge plus, là, mais le livre 50 nuances de Grey, c'est ça?
Ouais.
A été quelque chose... C'était été un game changer dans le sens où les femmes ont découvert ça. Il y en a beaucoup qui ça les a excités énormément puis qui ont peut-être plus lâché prise sur la façon ou whatever que leur conjoint, lui, allait faire son étape de masturbation, par exemple.
Oui, mais il y a comme un double standard par rapport à la masturbation. C'est comme si les hommes avaient le droit de le faire puis les femmes, nous autres, c'est secret. On n'en parle pas qu'on le fait.
Ouais.
Parce que je pense qu'effectivement, il y a des livres comme ça. Faut juste faire attention parce que c'est des livres qui... Bon, faut que je le mentionne. Évidemment, c'est la culture du viol, la culture... le livre est pas... mais écoute, après ça, c'est ton imaginaire érotique. Je pense que le double standard est en train de s'effacer. Puis ça, évidemment, ça part de l'adolescence. Hein? On glorifie beaucoup les jeunes garçons qui se masturbent. C'est cool de se masturber. Il y en a beaucoup même qui vont le faire en gang. Alors que chez les filles, et t'as pas ouais, on parle pas de ça, tu sais.
Hein, les gars en gang, arrête ça, c'est un gag, ça, cette affaire-là, là.
Non, c'est pas un gag. Moi, je te dis, là, j'entends des conversations par rapport à ça, puis de plus en plus, je l'entends, puis je me dis, ben, tabarouette, on savait pas ça, nous autres, à l'adolescence, que vous faisiez ça en gang.
Ben, honnêtement, j'ai jamais entendu ça. J'ai entendu la joke de gars d'une équipe de hockey qui se masturbait 3-4, c'est une tranche de pain, puis que le dernier qui venait manger.
Fun!
Ouais, je sais, mais... Non, mais honnêtement, ça, comme nouvelle tendance, j'ai de la misère à y croire, là.
Ben écoute, c'est sûr que les gens s'en vendent pas nécessairement, mais je te dirais que de mes oreilles et de mes propres, pas mes yeux, mais en fait de mes propres oreilles, j'ai entendu plusieurs confessions en ce sens. Mais là, après ça, écoutez, ça vous garde, ça là.
J'ai lu quelque chose de très intéressant cette semaine, puis là, moi, il est trop tard, là, j'ai comme passé douette, là, mes flambous, ils ont 21 et 19 ans, mais... Puis je me trouvais chanceux, c'est poche à dire, là. Je me suis toujours trouvé chanceux d'avoir eu deux garçons. Tu sais, parce que moi, il y a des sujets tabous qu'à la maison, j'aurais été mal à l'aise auxquels faire face. Puis je pensais à des parents qui ont des jeunes filles dans la préadolescence, adolescence, qui se font des petits chums, puis... c'est dans quelle émission que j'ai vu ça également que là à lunch, ah c'est dans une émission américaine mais peu importe. Donc tu sais, t'as une jeune fille qui se fait un petit chum, tu sais, elle a 14 ans, puis là tu te dis mais là il va-tu se passer ce qui est peut-être trop jeune pour qu'il se passe. D'ailleurs le Doc Mayou il disait souvent hein que en très très jeune là c'est pas vrai que c'est un épanouissement. Puis
ça s'est amélioré à mon avis la communication.
Oui, puis ce que je lisais cette semaine que je trouvais intéressant sur justement l'amélioration de la communication au niveau du sexe entre les parents et les enfants, c'est que de leur dire, regarde, écoute, avant d'aller trop loin avec ton petit copain, ton chum, développe ou non, expérimente la masturbation. Tu vas premièrement te découvrir toi-même avant de te faire scraper ça par...
Tellement important ce que tu dis, puis même dans les écoles, là, j'asais avec mes chums de filles au parc, là, on a jasé cette journée-là. Puis on se dit à quel point les cours d'éducation sexuelle qu'on a eus, là, c'était n'importe quoi. C'était juste de mettre un condom sur un faux pénis bois, en bois.
Mais c'est pour... Moi, honnêtement, là, quand j'ai lu ça cette semaine, là, je suis tombé à terre.
Jamais on a parlé de plaisir, non plus. Mais non,
puis je me disais, ah ouais, c'est-à-dire que le gars, mettons, qui a peur que sa petite fille accouche parce que c'est son chum, est en amour avec, puis elle voit plus clair, puis elle a juste 14 ans, mais si vraiment il met de l'avant d'explorer la masturbation puis de se découvrir elle-même en premier, elle va peut-être retarder cette première relation-là. Puis peut-être qu'elle va mieux la vivre si elle s'est...
Dis-moi, elle va connaître ce qu'elle aime pas, ses limites aussi.
Anne-Marie, c'est toi notre coach, t'en penses quoi?
Je suis vraiment d'accord là, avec ce que vous dites. Comme je l'ai mentionné tantôt, pour moi, la masturbation, c'est un point de départ. Puis quand j'ai des femmes qui arrivent en consultation avec moi puis qui ont des difficultés dans leur relation amoureuse, dans leur rapport sexuel, en fait, là, moi, je retourne toujours vers la masturbation. Est-ce que tu te masturbes? Si la réponse est non, ben il faut voir pourquoi. Tu sais, c'est quoi les croyances que tu as reçues sur la masturbation? Est-ce que c'est des croyances positives? Est-ce que c'est des croyances négatives? Donc, vraiment un gros... ça prend de l'éducation, là. Ça prend de l'éducation. Faut enseigner à nos jeunes à se connaître. Puis, si vous voyez les messages que je reçois sur mon Instagram, des jeunes qui sont actives sexuellement, mais qui me demandent comment je fais pour savoir il est où mon vagin.
Ils ont
des rapports sexuels. Je vous le dis, là, j'ai des questions, là, vraiment, là. Je me dis, les gens sont actifs sexuellement, ne connaissent pas leur corps. Puis il n'y a pas d'autre façon que de connaître ton corps que de l'explorer toi-même. Donc, puis tu sais, je le dis souvent à mes clients, c'est quand la dernière fois que tu as pris un miroir puis que tu as regardé ta vulve? Mm-hmm. Il y en a qui me disent, ben voyons donc, j'ai jamais fait ça, je suis mal à l'aise. Mais c'est ton corps, puis tu t'attends à ce que cette partie-là de ton corps t'offre du plaisir.
Les gars, on utilise les miroirs juste quand on a une grosse banane. C'est une joke.
Ben oui, probablement. Mais tu sais, en fait, mais les gars, c'est ça l'affaire, c'est que vous l'avez d'en face, tu sais. C'est là, il faut pas le manquer. Puis tu sais, il y a des éjaculations nocturnes, mais il y en a pas tout le monde là. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui vont en avoir. Il y a des érections, etc. Tu peux comme pas le manquer, tu sais. Nous autres, quand on entre en érection, c'est pas tout le temps très visible, tu sais. Fait qu'on l'a pas d'en face nécessairement. Puis je pense que ça prend l'éducation. Ça prend des cours d'éducation à la sexualité, puis nous montrer comment qu'on fonctionne, puis nous montrer comment le faire de façon saine, puis ça part de la masturbation.
Puis je te jure que si j'étais ministre de l'Éducation, donc je serais peut-être le chum de la vice-première ministre, c'est une joke. Non, mais sérieusement, si j'étais ministre de l'Éducation, c'est certain que je mettrais un emphase là-dessus, puis d'amener peut-être même les cours d'éducation sexuelle. Tu sais, il y a quelqu'un qui nous a envoyé une statistique qu'en secondaire 1, 80% des jeunes avaient déjà étaient déjà passés par des relations sexuelles. Je trouve ça élevé, là. Mais ouais, c'est exagéré. En tout cas, mais peu importe, c'est que si tu mets l'emphase sur les éducations sexuelles, avec tout ce qui est disponible maintenant à cause de l'Internet, augmenter tes chances qu'il y ait plus de jeunes qui aient un meilleur départ de ce côté-là dans la vie, que ça parte tout croche avec des idées folles qu'ils ont vues sur Internet.
c'est prouvé que les cours d'éducation à la sexualité vont amener les jeunes à avoir une meilleure attitude, une attitude positive envers leur sexualité. Puis ils vont adopter des comportements qui vont être beaucoup moins à risque, beaucoup plus sains. Et en passant, l'âge médian pour les premiers rapports sexuels, c'est 17 ans. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a une hyper-sexualisation. Oui, il y a un phénomène là, en ce moment, là, étant donné qu'il y a une disponibilité de l'information, puis c'est pas tout le temps la bonne qui circule. Mais le premier rapport sexuel, là, puis quand on parle de rapport sexuel, on parle avec pénétration, ça se passe autour de 17 ans environ.
Bon, ben vu que c'est ton sujet préféré, c'est sûr qu'on va y revenir à un moment ou un autre de tes chroniques. Merci beaucoup, Anne-Marie, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, bon week-end.
Au revoir. Au lit avec Anne-Marie. Si vous voulez la suivre sur Instagram et l'autre, c'est comment ça s'appelle? TikTok. Donc, il y a moyen de suivre ces sujets qui sont toujours très courts et très explicites.